Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Photographe autodidacte, originaire de Nice, Olivier Rémualdo voyage en Inde depuis 2004. Je l'ai rencontré au Salon de la Photo à Paris. Olivier est un homme inspiré par le voyage et la découverte. Son attention s'est particulièrement tournée vers l'Inde et la magie qu'elle recèle. Il nous parle bien volontiers de son parcours, de ses rencontres avec les sadhus, à qui il a promis de faire connaître leur histoire à travers son livre « Sadhu » qu'il est venu nous présenter.
La vie ne m'a pas amené à la photo directement. C'était un peu un rêve d'enfant et j'ai pris des chemins variés et divers avant d'en arriver là. J'ai fait des études de commerce, de géographie, un peu de photo aussi. Et je n'ai pas trouvé ma voie dans tout ce qui m'était proposé. J'ai donc commencé à travailler. Et à l'âge de 26 ans à peu près, donc assez tard finalement, c'est un peu la vie qui m'a rappeler que le temps passait et que si on voulait vraiment vivre ses rêves, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Et donc je suis parti en Inde deux mois, sac à dos. J'avais déjà voyagé en Asie, aux États-Unis, en Europe, mais toujours pour des périodes assez courtes. Et puis l'Inde, on entend beaucoup de choses sur l'Inde et souvent les gens sont assez peu rassurants sur le pays alors que c'est un pays magnifique et extrêmement accueillant. Au bout de deux mois, finalement, je suis parti. D'abord, je suis arrivé à Delhi, je suis parti à Dharamsala et j'étais volontaire, prof de français pour des réfugiés tibétains. Et donc, les deux mois de mon voyage sont passés et je n'avais pas vu l'Inde. En même temps, cette expérience, elle a été très importante parce que j'avais envie de donner du temps. C'est facile de donner de l'argent, enfin, quand on en a, bien sûr, mais on peut toujours donner un petit peu, mais le temps, c'est tout à fait autre chose. Et cette expérience, elle était très intéressante sur moi puisque, en fait, j'ai failli renoncer au bout de la première journée parce que j'étais avec des participes passés, j'étais avec des notions de grammaire qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et j'ai voulu renoncer et j'ai ressenti un sentiment de culpabilité énorme parce qu'il y a des gens qui étaient venus, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, il y avait 3-4 élèves, mais certaines personnes étaient venues à pied du Tibet jusqu'à Dharamsala. Pour fuir le régime chinois et je me suis dit ces gens ont eu le courage de faire ça et moi une heure de cours j'abandonne et j'ai essayé de savoir pourquoi ils voulaient apprendre cette langue et finalement ceux qui travaillaient dans l'hôtellerie je leur ai appris du vocabulaire ceux qui voulaient venir vivre en France qui étaient avancés on a fait la conversation ceux qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là on a appris une chanson voilà donc c'est une belle aventure. Et donc, au bout de deux mois, oui, effectivement, je me suis dit, je suis venu en Inde pour découvrir le pays, je n'ai rien fait. Donc, je suis parti ensuite à Benares, et là, ça a été vraiment... on va pas parler d'illumination, mais ça a été une belle rencontre. L'histoire d'amour a vraiment commencé là. J'ai fait le Rajasthan, j'ai reprolongé encore une fois mon visa, je suis allé au Népal, je suis allé aussi un petit peu en Inde du Sud. Et finalement, ce premier voyage a duré six mois. Je suis parti avec un petit relais 35 qui est un vieil appareil photo qui est télémétrique, enfin tous les réglages sont manuels, la cellule marchait mal. Et j'avais aussi acheté un Leica M6 puisque j'étais saisonnier dans l'hôtellerie, donc j'ai pu mettre un peu d'argent de côté et acheter un peu l'appareil de mes rêves. Et finalement je suis revenu avec un certain nombre d'images et voilà, on va dire que j'ai osé exposer une première fois. Retour de ce voyage et j'ai fait aussi beaucoup de rencontres et à partir de là j'ai monté avec une artiste plasticienne un projet sur les traces, on est parti sur les traces d'un fleuve qui a disparu il y a plus de 4000 ans qui s'appelle le fleuve Sarasvati et Sarasvati c'est aussi la déesse des arts, de la connaissance, de la transmission du savoir. On dit que c'est la plus belle déesse du panthéon indien.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
lorsqu'on a un esprit occidental, moi je suis né en Occident, donc j'étais forcément formaté, conditionné, on va dire, par le biais de l'école, des médias, puisque je pense que la société nous formate quand même énormément. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir nos réflexes au quotidien, mais du coup il y a beaucoup de choses que l'on voit pas, qu'on comprend pas, alors que dans l'hindouisme finalement il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plein, et la mythologie, mais je parle de mythologie, mais c'est aussi la religion. Jésus est, voilà, il y a l'Immaculée Conception, c'est le fils de Marie et de Joseph, mais voilà, l'histoire, elle est écrite, alors que dans l'hindouisme, ces histoires, elles changent. Bon, c'est sûr qu'il y a 330 millions de dieux, donc c'est un panthéon extrêmement complexe. On dit qu'il faut 3 vies, je crois, pour connaître l'Inde, mais même 3 vies, je crois que c'est insuffisant, tellement c'est gigantesque. Et voilà, donc c'était vraiment passionnant de découvrir cette culture indienne. Donc je me suis passionné pour la mythologie, aussi pour les gens, pour ces sourires incroyables, pour ces rencontres humaines. Et l'Inde est pour moi, en fait, c'est un pays de contradictions. C'est-à-dire que je considère que c'est une synthèse de l'humanité. Tout à l'heure, j'évoquais Bénarès, et pour moi, Bénarès est une synthèse de l'Inde. Dire l'importance que cette ville a, en tout cas, dans mon cœur, j'ai dû y aller 8 ou 9 fois, et à chaque fois, c'est différent. Dans tous mes voyages en Inde, ça a été de toute manière un voyage différent. Et je trouve qu'en Inde, tout est exacerbé. C'est-à-dire que si on garde nos vieux habits et nos réflexes d'occidentaux, on ne peut pas évoluer là-bas. Il faut lâcher prise complètement. Il faut s'ouvrir en fait à ce qui vient à nous, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et par exemple, imaginez, vous vous levez un matin, vous êtes dans une grande ville, disons Delhi par exemple, ou dans le quartier des voyageurs, Parganj, cette espèce de cour des miracles. Bruyante, poussiéreuse, vous êtes sollicité en permanence, vous allez croiser un enfant qui mendie, après vous allez avoir un regard et un sourire magnifique, après vous allez avoir une odeur de merde, ensuite une odeur d'encens, une femme en sari, et peut-être un mendiant qui va être dans un état incroyable, où on a du mal à le croire humain, et finalement tout cela fait que tout coexiste, le meilleur comme le pire. Et dire meilleur et pire, c'est déjà orienter ce que l'on dit. C'est-à-dire finalement, on vit dans un monde factuel, il y a de la souffrance, il y a des joies, il faut tout pour faire finalement la vie. Et dans nos sociétés, on a tendance à cacher tout cela. Et en Inde, c'est tellement intense qu'on ne peut pas le cacher. Tout coexiste. Donc on ne sait jamais ce qui nous attend. Et se lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, je pense.
Avant de me parler du projet Sadhu, comment est-ce que tu définirais le Sadhu ?
Alors, un Sadhu, littéralement, c'est un saint homme. C'est un homme de bien. Les Sadhus sont des moines. Alors, en général, ce sont des errants, des ermites, ou alors ils vivent dans des ashrams. Et pour devenir Sadhu, en fait, il faut prononcer des vœux. En général, on est chela, on est disciple avant de ce qu'on appelle un gourou. Si ce n'est que le gourou en Inde est quelque chose de tout à fait normal, c'est le guide, la lumière, c'est aussi le maître, cette définition est bonne, mais en Occident le terme gourou est vraiment galvaudé, ce qui fait forcément référence à une dimension sectaire. En France on a vraiment très peur de cela, et je pense à juste titre aussi, parce qu'il y a beaucoup de dérives, mais en Inde c'est tout à fait différent. Le guide, le maître est quand même là pour montrer la voie, et d'ailleurs ce n'est pas que dans la spiritualité, mais on parle de gourou lorsqu'on va parler de professeur de musique ou de professeur de danse, surtout dans les arts indiens, les musiques traditionnelles ou les danses traditionnelles où tout est extrêmement normé, pointu, il n'y a pas un regard qui soit mis au hasard. Pour revenir sur les sadhus, il y a aussi le sannyasin, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ne rentrent pas dans cette institution religieuse, puisque c'en est quand même une. et qui choisissent une vie d'errance ou d'ermite, et qui sont un petit peu des indépendants de la sagesse ou de la spiritualité. Et d'ailleurs, je me sens assez proche d'eux, parce que je trouve que cette voie, ce qu'elle a de très intéressant, c'est qu'elle refuse déjà un peu le dogme, ce qui n'empêche que j'ai vu des sadhus d'une grande ouverture d'esprit, qui appartenaient à des grandes lignées ou des grandes écoles. Alors pour parler un peu des familles de sadhus, c'est extrêmement complexe. Je pense qu'après presque 2 ans en Inde, donc j'y voyage depuis 2004, ça fait presque 10 ans. Au total, j'ai passé en 7 voyages presque 2 ans sur place. Et les sadhus, j'ai beaucoup travaillé sur la question, je me suis beaucoup informé, mais même aujourd'hui, je n'ai une vision qui n'est que limitée, puisque c'est gigantesque. C'est un ordre qui est très ancien, en fait. Lorsqu'Alexandre le Grand est arrivé en Inde, il a croisé certains de ses philosophes nus, enfin de ses moines nus, et il les a appelés gymnosophes ou gymnosophistes. Voilà, les philosophes nus, c'est une très belle définition, je trouve.
Quand on pense à l'Inde aujourd'hui, c'est un pays en pleine croissance, en plein boom économique. Comment est-ce que les Indiens perçoivent les sadhus ? Est-ce que les sadhus sont reconnus, acceptés ? Quelle est la vision de l'Indien par rapport à cet ordre, hein, les sadhus ?
Alors c'est très varié, hein. Je disais que l'Inde était un pays de contradictions, et effectivement aujourd'hui, on a, si on va à Bangalore, on va voir les meilleurs informaticiens du monde, les meilleurs programmeurs. Et à côté de ça, lorsqu'on va dans des villages, on a l'impression presque d'être au Moyen-Âge. Et pourtant, tout le monde a des téléphones portables. Donc c'est vraiment un pays de contradictions, hein. Je tiens à insister là-dessus. Et la perception des sadhus, elle est extrêmement variée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont recevoir le darshan des sadhus, qui cherchent leur bénédiction.
Darshan, vas-y, définis.
Ah, le darshan. Le darshan, c'est... Alors les sadhus sont des errants, ils vivent d'aumônes, d'errance, de donations, et la seule chose qu'ils ont à offrir, en fait, c'est leur bienveillance, leur bénédiction, et c'est ça le darshan. Ça peut être un regard, ça peut être une gestuelle de la main, une pensée bienveillante. Voilà, c'est très beau un darshan. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Inde contemporaine et touristique, On les voit partout, sont devenus un petit peu des fers de lance de l'iconographie indienne, et donc on les voit dans les journaux télévisés, dans la presse, mais toujours dans le contexte du folklorique, du quotidien, du rituel. Et justement, mon travail est axé sur un recentrement du regard, en fait, sur l'individu, puisque on fait le choix de devenir sadhu, on peut naître sadhu aussi, hein. Si on est recueilli très jeune par un baba, par exemple, si on est orphelin, ce cas de figure existe. Il n'y a pas vraiment de chemin, les chemins sont multiples. Mais
le sadhu, tu disais, c'est un renonçant. Mais alors à quoi est-ce qu'il renonce ? Comment tu pourrais expliquer ça à l'occidental qui écoute ? Quels sont les vœux faits par le sadhu pour intégrer cet ordre ?
En fait, le sadhu renonce au monde. Il renonce à la société. Il renonce à sa folie, à ses bienfaits, et il meurt de son vivant, il meurt au monde. Et souvent, dans les textes de sagesse, on peut dire que l'illumination est une forme de mort, mourir de son vivant. Et effectivement, dans les grandes écoles, comme auprès des Nagasadhu, il y a des grandes cérémonies où en fait les disciples, les fameux Chela dont je parlais tout à l'heure, se font raser le crâne, et ça symbolise aussi une deuxième naissance, l'enfant qui renaît, qui n'a pas de cheveux, et ils prennent un nouveau nom, ils sont rebaptisés. Voilà, souvent en fonction de la lignée du gourou aussi.
Et là on le voit dans tes photos, donc le sadhu n'a rien matériellement sur lui, hein. C'est quelqu'un qui renonce aussi à cette vie matérielle.
Alors oui, alors il y a des contradictions et des paradoxes. Mais ce qu'il y a, c'est que le sadhu, en fait, normalement, surtout dans le cas d'errants, ils ne voyagent qu'avec ce qu'ils peuvent porter. Donc ils ont la robe orange. On va dire que l'orange, c'est la couleur de la cèse en Inde. Et ils ont un petit sac. Souvent des sacs qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ça prend des mois parce qu'ils le cousent à la main. Et il y a plein de petites poches dedans. Autant de petites poches qui peuvent être des miracles dans les périodes de besoin. Où on peut retrouver un billet de 10 roupies qui était oublié. Et effectivement, dans ce sac, il n'y a que très peu de choses. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de sadhus ont des téléphones portables. et le téléphone portable est devenu un peu l'outil indispensable du sadhu, enfin de beaucoup d'entre eux. Et c'est très pratique puisqu'en fait on peut faire des photos des temples. Lorsqu'ils voyagent, en fait, ils peuvent faire 600 km pour atteindre un temple, par exemple, en allant au sens du Gange. Ils restent une journée. Ils vont au temple, ils reçoivent le darshan, ils font une photo du temple et ils repartent. Et le soir, lorsqu'ils dorment, là où ils trouvent un refuge, ça peut être une grotte, ça peut être un préau d'école, ça peut être un portique de magasin ou même sous un arbre, ils peuvent, avec leur téléphone portable, jouer de la musique, des mantras. Et donc c'est vraiment un outil extrêmement pratique. J'ai rencontré un sadhu qui vit dans une grotte près de Vyasudhara Fall. Vyasudhara, ce sont les chutes d'eau qui sont décrites dans le Mahabharata, qui est un texte épique de l'Inde, très beau texte. Et lui vivait dans cette grotte, il avait un lit de fakir, un lit de clou, puisque les sadhus pratiquent également des ascèses. Et j'y suis retourné il y a 2 ans, et j'ai trouvé un petit muret en béton, une porte et un verrou. Alors je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, je pense que les Indiens très très nombreux qui partent en pèlerinage aux sources du Gange, ce qu'on appelle le Chardham Yatra, les 4 sources du Gange et de la Yamuna, ils sont des millions tous les étés. Et ils montent jusqu'à 4000 mètres pour... En fait, les hindous voyagent, font ces pèlerinages parce que il y a quelque chose d'extrêmement auspicieux à recevoir le darshan de ces temples pour leur réincarnation. Les hindous considèrent que nous vivons dans Maya, un monde d'illusion. Et le but de tout hindou, c'est d'atteindre moksha, mettre un terme au cycle des réincarnations perpétuelles. Et effectivement, lorsque l'on va à la Mahakumbh Mela, le plus grand rassemblement religieux au monde, ou lorsqu'on fait le yatra des sources du Gange, quelque part on améliore son karma, on le lave. Celui peut-être des générations passées, des générations à venir, mais il y a des bienfaits qui sont associés à un bain dans le Gange dans le cadre de ces pèlerinages, puisque même à Badrinath, à 4000 mètres, 3500-4000 mètres d'altitude, les gens vont se baigner. Et je peux vous dire que l'eau est très froide. Voilà. Et ils sont capables de parcourir des milliers de kilomètres en n'ayant rien. Ils mettent toutes leurs économies dans ce voyage. Ils arrivent avec leurs habits de Rajasthani aux sources du Gange. Les femmes sont en sari, les hommes en kurta pyjama. C'est tout juste, ils ont un pull et ils sont en tongs ou en pantoufles. Il y a certains temples où les 14 derniers kilomètres, comme à Kedarnath, il faut marcher dans la pluie, la boue, il pleut 12 heures par jour. C'est un enfer sur terre, quoi. C'est un purgatoire. Même moi qui avais... du coup, je parle de ma marche, mais c'est vrai que j'ai fait une marche aux sources du Gange. Et c'était dur, l'ascension était dure, ces 14 derniers kilomètres, dans la boue et dans la cohue, pour monter jusqu'à 4 mètres d'altitude, et de voir ces gens, vieillards, femmes, enfants, avec rien, juste un sari et un bout de plastique pour se couvrir de la pluie. Il faut vraiment, enfin, une foi incroyable pour s'infliger
une telle souffrance.
Pèlerinage, quoi, oui, voilà.
Tu parlais, quelle est la finalité finalement, donc, tu disais, de cette grotte que tu as retrouvée quelques années plus tard avec un muret et un verrou. Qu'est-ce que tu en retires? Comment est-ce que tu interprètes ça?
Ah, mais je pense que le monde change, et de toute façon, c'est un peu ce que je ressens aussi dans ma vie personnelle. Et je pense qu'il y a ce qui m'attire à l'Inde aussi, c'est la spiritualité. Effectivement, ça en fait partie, mais... Et j'ai compris finalement que le bonheur, ou en tout cas que la vie, n'était pas quelque chose de figé. Souvent on présente les choses comme... c'est un peu comme dans les films de Disney. À la fin, on a toujours une image, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Finalement, on a une fin figée, où il ne se passe jamais rien après, où personne n'est malade, où on a l'impression que c'est le bonheur éternel. Et en fait, l'existence, Déjà, elle est beaucoup plus factuelle. Il n'y a pas le bon et le mal, c'est nous qui le déterminons ou qui le qualifions. Et surtout, il y a, je pense que la seule chose véritable, mais qui soit perpétuelle, c'est le changement, c'est le mouvement. La Terre, finalement, c'est un objet qui va des milliers de kilomètres. Enfin, je ne suis pas astrophysicien, mais voilà, nous allons très très vite. Nous sommes sur une boule qui va très très vite dans l'espace. Et donc, ici, tout autour de nous...
paraît être figé, mais pas du tout.
Paraît être figé, mais en fait, tout est un mouvement perpétuel. Voilà, donc le changement, il fait partie des choses, il faut l'accepter. Je pense que une des clés du bonheur, c'est aussi l'acceptation de ce qui nous arrive dans la vie. Parce que lorsque l'on n'accepte pas les événements qui nous arrivent, finalement, étant dans le refus, on est toujours dans le passé ou dans la projection, en espérant qu'un jour ce sera mieux. Et l'acceptation, elle se passe dans le présent. Ce que nous vivons, finalement, nous met sur notre voie intérieure. Donc finalement, même si on est dans l'opulence matérielle, le confort ou dans l'égoïsme, quelque part, c'est aussi peut-être des étapes qui peuvent nous amener à autre chose. Il y a des gens qui, un jour, décident de tout quitter. Je pense que le fait de tout quitter, c'est pas une décision, finalement, si légère que ça. Ça doit être une évidence, certainement, quoi. Je pense que si on projette le fait de tout quitter pour devenir sadhu, par exemple, et qu'on se dit « oui, je vais me consacrer à l'illumination, à la sagesse », je pense pas que ce soit comme ça que ça marche. Quand j'ai fait cette marche dans l'Himalaya, à un moment donné, je me suis dit, intérieurement, je dis « mais en fait, le plus important, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Il suffit d'ouvrir un livre de Coelho pour le lire. Tout le monde connaît, c'est un adage, tout le monde connaît cette phrase. Mais il y a une véritable différence entre ressentir de l'intérieur quelque chose et le ressentir comme une vérité, en tout cas sa vérité, on va dire, plutôt que de le lire et finalement de l'entendre. Je pense que on peut lire tous les textes de sagesse que l'on veut, si le mouvement ne vient pas de l'intérieur de soi, il n'y a pas de compréhension, sincèrement. Voilà, après, c'est vrai que c'est justement aussi sur les sadhus, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées qui sont un petit peu préconçues et on montre toujours le côté spectaculaire, anecdotique. Et si je peux parler un peu du livre, parce que finalement, c'est un petit peu le fruit de ces 5 dernières années de voyage et de travail. C'est donc une histoire d'amitié qui est à l'origine de ce projet. Et ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui au salon de la photo pour présenter un livre qui est très personnel et où j'ai voulu un petit peu être leur porte-parole, ou en tout cas montrer une vision qui n'est pas celle que l'on voit d'habitude. Donc pour parler de la manière dont je réalise les photos, c'est déjà assez intrusif puisque il y a un fond photographique qui est fabriqué sur place avec les moyens du bord. C'est un bout de tissu collé sur une planche ou tenu avec quelques baguettes et des pinces de maçon. Et donc c'est intrusif, il faut que j'aille à la rencontre des sadhus. Les photos sont faites in situ, vraiment sur le lieu de la rencontre, en lumière naturelle. J'ai un boîtier avec une focale fixe, donc c'est un dispositif très simple. Et donc je me présente à eux, je leur explique ma démarche. Tous mes voyages en Inde ont fait que je parle un petit peu hindi. Mais ça me suffit pour me faire comprendre. Et je leur explique qu'en France, on n'a pas de sadhus. Et que moi, j'ai à cœur de parler d'eux dans mon pays. J'aurais dit que je vais le faire au travers d'expositions, de photographies. Et ma grande promesse, c'était de le faire au travers d'un livre. Donc c'est une grosse responsabilité, en fait, je m'en suis rendu compte, puisque la dernière photo du projet date d'il y a plus de 2 ans et demi. Et c'est le temps qu'il m'a fallu pour créer ma maison d'édition, faire une souscription, repenser le projet dans son ensemble, changer le format du livre, écrire les textes, enfin... Il y a une vraie maturation au projet. Il a fallu du temps pour comprendre finalement quel était le meilleur moyen de présenter ce travail dans un format qui n'est pas forcément un format gigantesque et surtout en mettant des textes, parce que je réalisais des interviews à chaque fois que j'ai photographié. Je leur demandais leur nom, leur âge, leur lignée, quelle école, s'ils étaient des sadhus vishnouites, shivaïtes, des agoris sadhus. Les agoris sont un petit peu les magiciens noirs de l'hindouisme, hein. Certains hindous les craignent même parce qu'on leur prête vraiment des pouvoirs mystiques très forts, parfois occultes. Ensuite, il y a eu un deuxième voyage, la Mahakumbh Mela, parce que forcément, le projet ayant commencé à Bénarès, il y avait une vision tronquée de ce que sont les sadhus. Il y avait beaucoup de sadhus shivaïtes. Et puis, c'était trop léger, quoi, un seul voyage pour parler de cet ordre vieux de plus de 5000 ans. Et en tout, plus de 110 portraits de sadhus et de sadhvis ont été collectés pour constituer cette iconographie. Bien entendu, tous ne sont pas dans le livre. Toutes les histoires non plus, mais j'ai vraiment voulu partager en fait les histoires. Alors les histoires qu'on a bien voulu me raconter, parce que souvent la réponse était Babaji no past. Les sadhus n'ont pas de passé, puisqu'ils sont morts de leur vivant, donc le passé souvent ils n'en parlent pas. Certains d'ailleurs ne connaissent même pas leur âge. Et il y a vraiment eu de très très belles rencontres. Il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Il y a un sadhu qui s'appelle Dharampuri Maharaj qui a fait la couverture de la première version du livre, rencontré à Bénarès en 2009, à la Kumbh Mela en 2010, lors du premier jour de prise de vue, je tombe sur lui, par hasard. Et lorsque je retourne en février 2013 retravailler à ma souscription de livre, un petit peu dans un esprit qui s'y prête, loin de France, c'est lui qui me trouve cette fois, le jour de mon arrivée. Donc cette histoire extraordinaire où dans des villes différentes, on rencontre la même personne et toujours le jour de l'arrivée. Enfin, voilà, des histoires comme cela, il y en a énormément dans ce projet et j'ai tenu à les raconter. Il y a des anecdotes donc de rencontres, il y a des histoires de vie, il y a des sadhus qui ont créé un petit peu aussi leur propre chemin. À Bombay, par exemple, je ne pensais pas du tout photographier une femme sadhvi. Là, c'était une sannyasine, en fait. Et c'était un sarovar. Un sarovar, c'est un lac sacré avec des ghats, donc des marches qui descendent et une promenade tout autour. Et donc, voilà, une femme était là, portant la couleur de la sèse, récitant des mantras, faisant des moudras avec ses mains, et je me présente à elle. Et je lui demande un petit peu de me raconter son histoire, et elle me dit que jeune, à l'âge de 22 ans, en fait, elle avait un mal de dos depuis son enfance qui était récurrent et qu'aucun médecin n'avait pu soigner. Et à 22 ans, ne sachant plus quoi faire, elle va voir un baba. Baba, ça veut dire père, c'est le nom que l'on donne au sadhu aussi, qui est à la fois qui est familier mais très respectueux. Et donc, elle va voir un baba et lui réfléchit un instant et finalement prend tous ses malas, ce sont des rosaires, on peut dire des colliers aussi, autour de son cou. Et les met autour du cou de la jeune femme. Et donc, Bhavna, c'est son nom, me dit qu'instantanément, la douleur a disparu. Et que depuis, elle a choisi la voie de la 16. Ce qui n'a pas empêché, je pense qu'elle est issue d'une famille de commerçants. Et il y a une entreprise, il y a 350 employés dans l'entreprise qu'elle dirige. Donc je lui dis, mais comment c'est possible de concilier la vie de sannyasine et de chef d'entreprise? Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça doit se passer normalement. Et elle me dit que voilà, le matin, à partir de 6h, elle fait de la méditation, elle rencontre les gens. Donc aujourd'hui, c'est elle qui aide les gens, qui les conseille. Et tous les soirs, à partir de 18h jusqu'à 21h30, elle s'occupe de son entreprise. Voilà, mais je trouve que ça témoigne d'une belle ouverture d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, être sadhu, c'est pas uniquement s'habiller en orange ou être vêtu de cendres et réciter des mantras ou fumer le shilom. Je pense même qu'il y a très honnêtement, il y a des sadhus en Europe, en Occident, partout dans le monde. Mais l'habit est différent et je pense qu'on se limite parce que on se limite nous-mêmes dans ce que nous sommes capables d'entreprendre en fait.
Donc la limitation, on pourrait dire que c'est une création de l'esprit et le message que je retiens dans ce que tu dis, c'est allons-y, réalisons nos rêves.
Exactement. Un an plus tard, je suis parti pour ce voyage à pied de 600 km dans l'Himalaya à partir du lieu de notre rencontre. C'était une des plus belles expériences de ma vie.
Merci Olivier.
Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.